C'est la rentrée, un podcast en 4 épisodes pour explorer les facettes de la vie étudiante à Tours en 2025. Radio Campus Tours était présente sur les événements de la rentrée universitaire le 25 septembre 2025. Un premier événement se tenait sur l'Esplanade des Tanneurs, organisé par le service de la vie étudiante et le service culturel de l'Université de Tours. Un second événement en soirée, au Beaumont, Campus en Fête, offert aux étudiants par le CROUS. Être étudiant n'est pas toujours un long fleuve tranquille, et dans cet épisode, on s'intéresse aux initiatives qui permettent à tous les étudiants de poursuivre sereinement leurs études, qu'il s'agisse de santé, logement, alimentation ou lien social. Au programme, un échange avec Chantal Lefort, coprésidente, cofondatrice de l'association Les Bonnes Mines, Thierry Chailloux, vice-président délégué à la recherche, à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle et à l'apprentissage de Tours Métropole, et Simon Fortin, médecin du service de santé étudiante, SSE. Côté village associatif, l'AST, Association des Sénégalais de Tours, nous présente ses actions d'accompagnement vers les étudiants internationaux. Et du côté des Beaumont, Mostefa Fliou, délégué général du CROUS Orléans-Tours, nous parle des missions du CROUS.
Bien, nous sommes sur le plateau Radio Campus le jeudi 25 septembre et nous allons avoir un petit plateau qualité de vie étudiante avec Camille qui est à mes côtés, je suis Guillaume Singal et nous allons discuter avec le docteur Simon Fortin du service de santé étudiante, avec Thierry Chailloux, vice-président Tours Métropole pour l'enseignement supérieur notamment, je ne donne pas tout le portefeuille, et c'est à Chantal Lefort. Donc on va parler qualité de vie étudiante et donc on va déjà vous demander à tous les trois de vous présenter rapidement avant les questions vos différents mandats, vos différents domaines d'intervention pour la qualité de vie étudiante. Je ne sais pas Chantal.
Alors moi je travaille à la bibliothèque et je travaille aussi au service de la vie étudiante. Et je suis aussi cofondatrice et coprésidente de l'association Les Bonnes Mines.
Donc moi je suis Thierry Chailloux, je suis maire de Ballon-Méré, mais je suis ici en tant que vice-président de la métropole, en charge, comme vous l'avez dit, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et donc nous travaillons dans le cadre d'un schéma qui s'appelle Tours Campus, qu'on est en train de préparer pour les 5 prochaines années. Nous avons mis un pilier important pour la qualité de vie étudiante.
Et qu'est-ce qu'on entend par qualité de vie étudiante ?
Bien sûr, je peux vous naturellement compléter. Il y a plusieurs choses essentielles. Il y a le logement, faire en sorte que les étudiants aient facilement un logement et à des prix abordables. Il y a l'alimentation, il y a les déplacements, il y a la santé, le service de santé, vous allez en parler, j'imagine. Il y a également l'accès à la culture et au sport pour tous, et puis il y a aussi faire en sorte que les étudiants qui veulent entreprendre puissent le faire comme ils le souhaitent. Donc c'est un ensemble de politiques métropolitaines qui vise une chose, faire en sorte que les étudiants soient heureux d'apprendre à Tours Métropole.
Et donc pour le service de santé étudiante, Simon Fortin, c'est le service de santé étudiante, c'est où, c'est quoi ?
Oui, bonjour à tous. Donc le SSE, service de santé étudiant, c'est un service, comme son nom l'indique, avec différents professionnels de santé, des médecins généralistes, des infirmiers, des psychologues, des médecins de prévention qui font des aménagements pour les étudiants en situation de handicap, des assistantes sociales, un psychiatre en vacation... j'en oublie, diététicienne, sophrologue, etc. L'idée, c'est d'accueillir les étudiants pour leurs problématiques de santé du quotidien. On est situé au niveau du plat d'étain, sur les services centraux de l'université, à proximité de la place Rabelais. Et on a également une antenne sur Blois.
Très bien, merci. Moi, j'aimerais un peu savoir quelles sont les actions, quelles sont les activités que vous mettez en place pour les étudiants aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Je vais commencer. Alors, l'activité classique, c'est l'activité de consultation que les étudiants peuvent solliciter pour leurs différentes problématiques, problématiques gynéco, de médecine générale, etc. Finalement, une activité relativement classique pour un service de santé. Et puis, on fait des actions de prévention, de promotion de la santé, de sensibilisation à différentes thématiques, de la santé environnementale au dépistage, en passant par la nutrition, en passant par différents éléments. Et ça, tout au long de l'année, sur les différents sites universitaires. Donc, on se rend, par exemple, au Tanneur, par exemple, sur les sites de médecine, pour les vaccinations notamment, voilà, tout au long de l'année, on essaye de coller à l'actualité médicale, aux semaines internationales de la santé mentale notamment, qui se déroulent à partir de la semaine prochaine, à la semaine de la vaccination, etc. Ça, c'est la première, les deux activités qu'on peut proposer pour les étudiants. Et puis, on a également réalisé une enquête en santé auprès des étudiants au mois de février dernier, qui nous a permis de recueillir pas mal d'informations sur la santé des étudiants en général.
Très bien, monsieur Chaillou.
Alors, quelques exemples. Je vais commencer par l'ESSE, puisque l'ESSE s'adresse à aujourd'hui pour les étudiants de l'université. Hein, c'est 32 000 étudiants, c'est la majeure partie de l'ensemble des étudiants, mais il a vocation à s'adresser à tous les étudiants de toutes les écoles. Donc, ce que nous faisons actuellement, et nous travaillons vraiment en collaboration avec l'ESSE, c'est de faire découvrir à l'ensemble des autres écoles l'ESSE. On a organisé une visite au mois de juin. On est en train de définir le modèle économique pour permettre à toutes les écoles d'adhérer au SSE et de faire en sorte, et ça c'est ma vision, c'est de faire en sorte que tous les étudiants aient accès à un service de santé. Et on a la chance à Tours d'avoir un super service de santé, il faut le dire, hein, c'est pas le cas de partout, mais dans notre métropole, avec l'université, il y a un très bon service de santé. Ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, je vous parlais des logements tout à l'heure, ben, notre rôle à la métropole c'est de planifier la construction de logements. Et on a des outils pour ça, on fait un plan local de l'habitat. C'est comme ça que ça s'appelle. Et dans ce plan local de l'habitat, on prévoit la construction de 660 logements étudiants dans les 5 prochaines années. Donc notre rôle, c'est de travailler à faire en sorte qu'il y ait des projets publics, des projets privés, pour qu'il y ait suffisamment de logements étudiants. Et on travaille, par exemple, aussi avec le CROUS l'extension et la construction d'un bâtiment sur le site de Portalis. Ça fait partie aussi, vous voyez, des projets concrets qui sont en cours pour les logements. On a créé aussi, on est en train de créer, un observatoire du logement pour faire en sorte de bien coller aux besoins des étudiants. Vous savez qu'il y a beaucoup d'étudiants en alternance. Là aussi, en vision, on peut prévoir d'avoir un second hôtel de l'alternance. Donc ça, c'est pour le logement. Pour le sport, je parlais du sport tout à l'heure. Là, on travaille avec l'université qui a un projet d'équipement sportif sur Hauts-de-Lyon. Et bien là, on accompagnera ce projet. On travaille concrètement à faire en sorte que le projet sorte. Pour l'accès à l'alimentation dont je parlais, on a un travail qui se fait avec le CROUS actuellement pour diversifier l'offre de repas sur le site des Deux-Lyons. Il y a beaucoup d'écoles qui sont arrivées aux Deux-Lyons et donc il y a un peu une congestion. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir avoir des repas à emporter, toujours à 1 euro pour le tarif social. Et donc là, concrètement, normalement, au mois d'octobre, il pourra avoir des repas emportés sur le site de Portalis et du restaurant universitaire. Puis un dernier exemple, et j'en aurai fini, quand on parle de mobilité, on sait qu'un des enjeux, c'est de pouvoir garer les vélos de façon sécurisée. Et bien là aussi, dans notre schéma, on prévoit d'avoir suffisamment de garages à vélo pour les étudiants. Vous voyez, c'est des choses très concrètes qui touchent la vie quotidienne des étudiants.
Très bien, merci. Et vous, Chantal Lefort, quelles sont les actions, les activités du coup que vous mettez en place avec votre association pour aider les étudiants aujourd'hui?
Alors, nous avons des distributions alimentaires 3 fois par semaine. Donc on donne du pain, des viennoiseries, des produits secs. Et tous les 15 jours, à partir de la semaine prochaine, nous aurons des fruits et légumes de producteurs locaux. Voilà, donc on a une subvention par l'université et ça permet aux étudiants de manger équilibré. Nous faisons aussi des vestiaires solidaires, donc 3 fois par an. Donc on met gratuitement des vêtements à disposition des étudiants qui sont dans le besoin. Et aujourd'hui, nous avons distribué de la vaisselle, du linge de maison et des fournitures de bureaux. Le petit coup de pouce de la rentrée pour aider les étudiants qui sont dans le besoin. Voilà.
Très bien, merci.
Oui, et pour les distributions alimentaires, c'est toujours une semaine sur deux et c'est toujours c'est le mardi toujours
ou non, alors c'est le mercredi et vendredi de 10h à 11h et le jeudi c'est de 10h à 13h. Voilà, et c'est au Tanneur dans le hall Passerella. Voilà, ça fait 3 ans que nous avons ces distributions.
Ma question a été mal posée. Je pensais aux distributions de fruits et légumes de...
Non, c'est le jeudi.
C'est le jeudi, d'accord.
Voilà, c'est la grande distribution.
D'accord.
Maintenant, je voulais savoir un petit peu donc, les impacts que vous pouviez voir de vos actions, quels résultats vous observez chez les jeunes. Donc, avec vous, Chantal, pour elle.
Eh ben, surtout en ce moment, il y a un problème de bourse. Donc, depuis fin août, je fais des colis d'urgence pour les étudiants qui n'ont rien à manger. Et voilà. Moi, ça m'affole un petit peu quand même, parce que c'est plus les années passent et plus on fait des grandes, plus de distributions. On a beaucoup plus d'étudiants. Là, par exemple, hier, on a eu 320 étudiants. Donc, je trouve que c'est quand même beaucoup pour un démarrage.
D'accord, je comprends. Et vous, Monsieur Chailloux ?
Alors, c'est pas facile de répondre à votre question. Nous, ce qu'on fait tous les ans, c'est qu'on rencontre un panel d'étudiants pour qui nous remontent les problématiques. C'est à partir de là qu'on a construit un plan global. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même des jeunes qui sont en difficulté pour se nourrir correctement. Donc ça, il y en a, on le sait. Et c'est pour ça qu'on veut faire en sorte que les jeunes puissent avoir un repas de bonne qualité avec le Crous. Et il faut qu'il y ait suffisamment de place au Crous. C'est pour ça qu'on travaille avec eux. Donc on sait qu'il y a une problématique à ce niveau-là. Pour les logements, il faut reconnaître qu'on est quand même beaucoup moins tendu que dans d'autres métropoles. Il y a surtout certainement des étudiants qui n'ont pas encore trouvé leur logement, mais grosso modo, petit à petit, on arrive à trouver des solutions. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a fait un forum du logement qui se tient en juin à la mairie de Tours pour permettre de découvrir tous les dispositifs. Et on est en train de travailler aussi à faire en sorte que les jeunes puissent trouver des locations chez les habitants. Et ça aussi, on diversifie l'offre pour permettre justement de compenser ces problèmes de logement. Il y a un vrai sujet de préoccupation, et vous allez en parler, c'est sur la santé psychologique des étudiants. On sait que la tendance n'est pas bonne. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le SSE et qu'au niveau de la métropole, on va financer une partie de l'extension du SSE. Il y a des besoins et effectivement, c'est une préoccupation que l'on a. Et on sait que là, la situation ne va pas en s'améliorant depuis un petit moment d'ailleurs. Voilà ce que je peux vous dire.
Tout à fait, pour pousser sur cette thématique, effectivement. La santé mentale, ça fait déjà quelques années, et c'est un mouvement de fond, de motifs de consultation au SSE. C'est devenu le premier motif des aménagements pour les étudiants en situation de handicap depuis maintenant plus de 5 ans. Les causes, je les ai pas là ici, et c'est sûrement d'ailleurs multifactoriel, mais effectivement, c'est une tendance de fond. On le voit en consultation, on l'a vu dans les chiffres de notre enquête en santé également. La moitié des étudiants en situation de handicap, le motif du handicap, c'est la santé mentale. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, on était plutôt sur les troubles des apprentissages, ce qu'on appelait dyslexie, dysorthographie, etc. Et c'est donc effectivement la santé mentale qui est devenue le premier point important. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que effectivement, les consultations de psychologie, on va dire qu'il y en a de plus en plus. Les possibilités de suivi en psychologue existent dans le SSE. Il y a également le dispositif santépsy.étudiant.gouv.fr qui donne le droit pour un étudiant à 12 séances par an avec un psychologue en ville sans avance de frais. Donc ça permet aussi justement de pouvoir pallier à ça. Il y a également au niveau de l'université, de la faculté de médecine, un accompagnement psychologique plus intense, on va dire, à venir prochainement pour les étudiants notamment de deuxième et cinquième année. Donc ça se développe, et puis avec effectivement l'agrandissement du SSE, le temps psychologique va également se développer. On a par ailleurs aussi des psychiatres qui viennent faire des vacations pour justement pouvoir faire de l'avis ponctuel et ou du suivi si besoin auprès des étudiants, et puis nos médecins généralistes qui, pour le coup également, c'est un grand motif de recours dans leur service pour cette santé mentale.
C'est parfait que vous abordiez cette question de la santé mentale. Je voulais justement y venir pour vous demander, en fait, si vous, visiblement vous voyez qu'il y a un lien entre la précarité et la santé mentale des jeunes qui est en forte augmentation ces derniers temps. Chantal Lefort, est-ce que vous aussi vous pensez donc du coup que la bonne alimentation peut lutter contre la santé, les problèmes de santé mentale chez les jeunes aujourd'hui ?
Oui, je pense, oui. Oui. Là, je sais que le fait de qui sache qu'on va avoir des fruits et légumes, le regard n'est plus le même. On voit qu'ils sont... Il y a un petit sourire. Dans leur tête, ils se disent « Je vais pouvoir manger sainement. » Et oui, je pense que le fait... c'est pour ça qu'on a continué ce projet. Parce que le fait de manger des fruits et légumes tous les 15 jours, parce que ça demande beaucoup de travail, ça serait mieux toutes les semaines. Honnêtement, on le voit dans leurs yeux, dans les yeux, dans leur comportement. Et je pense que oui, ça aide mentalement.
Oui, je pense aussi, effectivement. Maintenant, je voulais vous demander... encore à vous, Chantal Lefort. Je vous embête aujourd'hui.
Il n'y a pas de souci.
Est-ce que vous auriez des propositions ou des conseils de recettes ou de façon de mieux manger pour les étudiants à petit budget ?
Alors non, mais on y travaille. J'ai des collègues qui sont à côté du hall passerelle lorsqu'on a des fruits et légumes. Donc j'envoie la liste et puis ils nous préparent des petites recettes et tout. Et ils viennent surtout expliquer le légume, surtout les légumes pour les étudiants étrangers. Comment le cuisiner, qu'est-ce que ça peut apporter. Donc c'est un échange qu'on a avec les étudiants. Et donc effectivement, 15 jours après ou la semaine d'après, ils nous disent « Ah ben j'ai fait ça et tout ». Et donc après, c'est eux qui expliquent à d'autres étudiants étrangers. Voilà, c'est toute une chaîne. Pour nous, c'est un petit jeu, mais ça permet ceux qui ne connaissent pas le produit, déjà de savoir ce que c'est, le nom, parce que ce n'est pas évident pour certains, et comment le cuisiner. Et puis effectivement, tout le monde n'a pas un four et compagnie, donc avec un micro-ondes ou une petite plaque, comment faire plusieurs recettes comme ça. Mais ça, c'est des collègues qui se chargent de ça.
D'accord, merci. Monsieur Chailloux, j'aimerais revenir sur vous, sur les projets phares de Tour Métropole durant l'année 2024-2025.
Au niveau des étudiants ou
oui,
au niveau des étudiants, le projet qui nous prend beaucoup de temps, c'est d'écrire le nouveau schéma Tour Campus 2026-2032. Et ça fait 10 mois qu'on y travaille. On a fait un véritable travail participatif en impliquant l'ensemble des écoles, l'université, mais toutes les autres écoles, en impliquant le CODEV, qui est le comité de développement de la métropole. Et donc c'est un gros travail, on en est à la finalisation, il va être voté à la fin de l'année, donc on approche du bout, et c'est vraiment la feuille de route pour les prochaines années. Donc ça, c'est un point important. Et puis justement, ce autre sujet dont je vous ai parlé, c'est de travailler vraiment avec le CROUS pour fluidifier l'histoire des repas, trouver des solutions, innover dans les solutions. Donc ça, c'est un point important de cette année 2024-2025. Et puis aussi, on travaille à la diversification des offres de formation sur le territoire. L'idée, c'est qu'un étudiant, quel que soit ce qu'il souhaite faire, puisse trouver la formation sur place. Et donc, ça passe par d'avoir des nouvelles écoles qui arrivent sur le territoire. Par exemple, le CESI, qui est une école d'ingénieurs, vient d'ouvrir une formation. Pour l'instant, il est installé dans les locaux de l'IMT, au de Lyon, et il va proposer une formation d'ingénieur. Donc ça aussi, ça diversifie l'offre de formation. C'est juste un exemple. Ensuite, on travaille aussi dans les gros projets phares, et là, phares financièrement. On accompagne l'université dans ses projets immobiliers. Là, on est tout près de la fac des Tanneurs qui a été rénovée en partie. Bien, la métropole a financé une partie des travaux, tout comme on finance aussi l'extension de Polytech, l'école d'ingénieurs qui est sur le territoire et qui dépend de l'université. Là aussi, c'est plusieurs millions d'euros qui sont investis pour financer la construction de nouveaux bâtiments. Et enfin, dernier exemple qui vient en tête, on a travaillé et aussi à l'ouverture d'une formation kiné qui a commencé cette année. C'est sur le site de la Croix-Rouge. Et là, il y a 34 étudiants qui se forment et qui n'ont pas besoin d'aller ailleurs maintenant et qui peuvent rester aussi sur le territoire. Et demain, travailler sur le territoire parce qu'on a aussi besoin de kinésithérapeutes.
Très bien, merci. Une question pour vous. Comment les étudiants sont-ils informés et orientés vers le SSE ?
Vaste question. Plusieurs possibilités. Alors, on essaye de venir en début d'année universitaire dans les amphis, notamment des L1, puisque ce sont des néo-arrivants pour la plupart d'entre eux, pour aller présenter le service, comment ça fonctionne, comment on prend rendez-vous en ligne ou par téléphone, sur quel site on se trouve. Il y a aussi le bouche-à-oreille qui fonctionne beaucoup. On s'en rend compte avec les étudiants qui ont été informés soit par un autre étudiant, soit par un enseignant, soit par la scolarité d'une personne de l'administration de sa fac qui a fait la chose. Et puis on a également ce qui fonctionne aussi un petit peu mieux depuis quelques temps, l'Instagram des ERS, étudiants relais santé, où justement on peut donner les informations sur le service, sur les différentes actions qu'on va pouvoir faire de prévention, de promotion, de sensibilisation. Donc voilà, c'est les différents, on va dire, voies d'accès à ce SSE. Et puis après, comme on est sur le site central, ça a ses avantages et ça a ses inconvénients, mais voilà, on est accessible de tous. Et donc certains, en gros, par la découverte des sites universitaires, notamment pendant Fac à vélo, découvrent le SSE par ce biais-là.
Très bien, merci. Est-ce que je peux me permettre de vous demander comment est-ce que vous pouvez financer tout ça et comment vous êtes financé pour les associations ?
Alors, nous, pour les fruits et légumes, c'est une subvention de l'université, donc CEVEC, que je dois déposer encore ce soir, voilà, pour l'année prochaine. Et puis pour les autres dons, c'est quoi, pour les autres choses, c'est des dons. Donc il y a 3 jours, on a eu un don des Restos du Cœur. On a la banque alimentaire, on a beaucoup d'associations qui nous donnent. Il y a la table Jeanne-Marie aussi qui nous donne aussi pas mal de choses. Je suis bénévole là-bas, donc. Voilà, on a commencé avec la table Jeanne-Marie, c'est eux qui ont commencé à nous donner des choses. Et puis petit à petit, on a pris notre envol et nous sommes indépendants. Et de temps en temps, ils nous donnent des choses.
Très bien. Monsieur Chailly ?
Ben nous, c'est le budget de la métropole qui est voté chaque année. Et dans ce budget, alors vous avez vu qu'il y a plusieurs politiques différentes. Quand on parle du logement, ce n'est pas sur le budget de l'enseignement supérieur, c'est sur le budget du logement. Donc tout ça s'additionne, mais rien que pour le budget de l'enseignement supérieur, c'est environ 2,2 millions de fonctionnement. Et après, c'est l'investissement. Et de mémoire, on était à plus de 6 millions d'euros cette année pour financer les projets dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Très bien. Et vous ?
Et de notre côté, c'est une somme de différentes sources. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le MESRI, l'Agence régionale de santé. Il y a également toute la partie soins, c'est par les remboursements liés justement à la caisse primaire d'assurance maladie. Une partie métropole et puis notamment aussi la CEVEC que les étudiants payent chaque année. Une partie est dédiée à la santé et donc c'est effectivement une partie du budget qu'on utilise.
Alors j'avais une petite question parce que moi je suis enseignant-chercheur et j'ai eu l'occasion de travailler notamment beaucoup avec le SSE qui a changé de nom un certain nombre de fois mais qui s'appelle SSE maintenant. Non mais je le signale parce que s'il y a des vieux comme moi qui écoutent, ça ne s'appelle pas SSE depuis si longtemps que ça. J'ai une question un peu provocatrice parce que vous disiez que certains étudiants viennent parce que les profs leur en ont parlé. Alors on sait que les enseignants ont pris conscience, notamment avec les confinements, le Covid, etc., de la précarité étudiante, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte même de la précarité étudiante préexistante, et pas seulement de son aggravation. Néanmoins, moi j'ai le sentiment un petit peu, là je vais justement, non pas prêcher pour ma paroisse, mais taper dans ma paroisse, que malgré tout, il y a quand même beaucoup d'enseignants-chercheurs qui restent quand même pas totalement conscients de la... Finalement du nombre important d'étudiants qui mangent mal, qui ne mangent pas, qui arrivent en cours en n'ayant pas dormi dans un lieu salubre, pas mangé, etc. Comment on fait pour, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les enseignants aient des mises à jour de ces informations sur le SSE, les psychologues, les distributions alimentaires, C'est une question un peu vaste. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse.
Non, mais vous avez tout à fait raison. Et c'est un constat qu'on partage aussi. Même si je suis d'accord avec vous sur le fond, de plus en plus d'enseignants sont au courant. Donc on essaie de les sensibiliser. Il y a en début d'année, notamment pour les nouveaux enseignants, donc les responsables de TD, les enseignants-chercheurs, les nouveaux maîtres de conférences, etc., des sensibilisations à comment fonctionne le service, l'état de santé des étudiants. On essaie de communiquer aussi sur les différentes enquêtes en santé qu'on peut faire, parce qu'effectivement, dedans, il y a des chiffres qui sont très parlants, mais après, il faut aller les chercher, entre guillemets. Donc voilà, on essaye de donner de l'information. On a aussi défini dans chaque site universitaire des référents handicap, côté administration et côté enseignant, que ça puisse mettre un peu d'huile dans les rouages. Mais effectivement, toute la communauté universitaire n'est pas touchée. Et puis, il y a des enseignants qui vont avoir que quelques heures de cours ponctuels. Et donc, c'est plus difficile à les toucher que les enseignants qui vont avoir des cours réguliers. Donc, j'ai pas la réponse là. mais voilà, on essaye de sensibiliser les nouveaux notamment. Et puis, de communiquer sur ce qu'on fait et l'état de santé des étudiants de façon plus générale.
Pour vous, qu'est-ce que signifie la réussite étudiante ? Ma question est un peu large, mais au premier qui voudra répondre.
Trouver sa voie. Moi, je dirais ça. Je parle aussi SSE là, mais effectivement, c'est un point important de la santé. Mais l'idée d'une formation étudiante, pour moi, c'est d'arriver à se professionnaliser, trouver sa voie et faire quelque chose qui, derrière, nous plaît, nous parle. Et je dirais trouver ça.
Moi, je dirais c'est des étudiants épanouis dans ce qu'ils apprennent et dans ce qu'ils ont choisi d'apprendre. Donc, ça veut dire pas de problème dans la vie de tous les jours, mais pouvoir se focaliser sur les études et des études qu'ils ont pu choisir en ayant sur place un large choix, le choix le plus large possible. Donc, des étudiants qui trouvent leur voie et qui sont épanouis dans ce qu'ils apprennent. C'est ça, pour moi, la réussite.
Madame Lefort.
Moi, je dirais, je suis d'accord avec deux, et je rajouterais être bien dans sa tête et dans son corps. Et c'est comme ça qu'on réussit. Si on n'est pas bien, problème.
Ça influe beaucoup, effectivement, le mental sur la vie de tous les jours. Guillaume, est-ce que vous aviez une dernière question à poser à nos autres ? Bon, eh bien, je vous remercie à tous les trois d'avoir été le plateau de Radio Campus.
Merci à vous.
Vous pourrez donc nous retrouver en podcast, en replay, au 99.5. Merci à vous.
Merci, au revoir.
Bonjour, mon nom c'est Abdou Aziz Sall, je suis le coprésident de l'Association des étudiants sénégalais de Tours. Alors, l'Association des étudiants sénégalais, elle est créée en 2009 par les anciens, on n'était pas encore en France, qui nous ont transmis aujourd'hui l'association. Et donc, nous, notre but, c'est d'accompagner les étudiants, particulièrement les étudiants étrangers qui viennent d'arriver en France et qui veulent s'orienter. Donc ça, c'est un des objectifs de l'association. Il y a aussi des étudiants qui sont déjà en place, qui existent, qui sont arrivés en France il y a quelques mois, quelques années, et aussi qui sont quelquefois en difficulté. Ces étudiants aussi, on les accompagne, que ce soit dans des démarches administratives, que ce soit pour des besoins sociaux, pour des besoins également pédagogiques. Voilà, parce qu'on organise des événements dans le domaine pédagogique comme des concours de bâtons, des concours de prise de parole aussi. C'est des choses qu'on organise. L'association aussi, il promeut la culture sénégalaise en France. Donc pas seulement à Tours, mais toute la France. Et le 5 juillet d'ailleurs, on avait organisé un week-end culturel. Donc on avait invité même un artiste sénégalais qui venait du Sénégal et qui avait fait des prestations. Il y avait aussi des défilés culturels durant l'activité. Et donc ça fait partie aussi des piliers de l'association, promouvoir la culture sénégalaise en France. Bon, on organise aussi des activités sociales, comme l'accueil des nouveaux étudiants. Également, durant ces événements, on les met en relation avec des anciens qui sont dans le même domaine de discipline, pour qu'ils puissent les orienter, pour qu'ils puissent justement savoir comment ça se passe ici en France, parce que c'est un autre pays qui est différent du Sénégal. Donc on a besoin de savoir ce qui se passe ici quand on vient d'arriver. Donc ça, c'est l'aspect social surtout qu'on essaie de faire à chaque fois. Alors il y a pas mal de défis, parce que cette année on a accueilli plus de 70 étudiants sénégalais. Et la plupart se retrouvent dans des situations pour trouver des logements, par exemple. C'est pas facile. Et nous, on essaie à chaque fois de trouver des solutions, comme de les héberger temporairement. On sollicite les bonnes volontaires. pour qu'ils puissent héberger les nouveaux étudiants qui arrivent. Mais ce n'est pas facile parce que c'est pas évident de trouver quelqu'un qui va héberger une personne qu'il ne connaît pas. Donc ça, c'est une des difficultés. L'autre difficulté, c'est lié à l'aspect administratif en France, comme le renouvellement titre de séjour. C'est pas facile. On a vu des étudiants qui sont là, le titre de séjour a expiré et ils n'ont même pas de renouvellement. Ils n'ont pas de prolongation, pas de renouvellement. Bah, leur contrat de travail est suspendu et ils se retrouvent dans une précarité que je ne peux pas expliquer tellement c'est difficile. Donc ça, c'est les principaux défis auxquels l'association est vraiment confrontée. Et malheureusement, on peine à trouver des solutions. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile parce qu'on est tellement sollicité. On est même sollicité par d'autres étudiants qui ne sont pas sénégalais. Mais c'est pas facile quoi. Pour vous dire à quel point le problème il est là, il est factuel. Et voilà, bon, on trouve des solutions, mais c'est pas évident. On essaie de voir avec l'administration du Sénégal, comme le consulat ou l'ambassade. Mais c'est des solutions qui ne sont pas vraiment très très satisfaisantes. Alors oui, on a assisté à l'Assemblée générale ou à la réunion de la création de cette fédération qui est à l'initiative de l'association, du président de l'association Kagen. Alors je trouve que c'est une très belle idée. Actuellement, je pense que c'est en cours. Par contre, nous, on est un peu réticents parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec certaines choses. Voilà, actuellement, on est en train de discuter pour pouvoir ensemble trouver une solution qui va convenir à tout le monde. Mais je pense que c'est une bonne idée parce que ça permet justement de regrouper les différentes synergies entre les associations et on va porter une seule voix et ça va être beaucoup plus impactant. Donc d'où la nécessité justement de créer cette fédération. On va y adhérer, ça c'est sûr. Mais ça va être une question de temps, ça va aussi dépendre de ce que nous entendons ensemble de la fédération. Est-ce que ça va nous convenir ou pas? Et voilà, pour parler de manière beaucoup plus optimiste, je pense que ça va le faire. Donc il n'y a pas raison que l'association se mette en réserve. Alors la vie associative est très importante parce que ça permet de se former. Parce que les étudiants sénégalais, quand ils arrivent en France, leur principale difficulté, c'est aussi la prise de parole. Et l'association, justement, il aide les étudiants dans cet aspect pédagogique. Et donc, moi, je les invite tous à intégrer les associations, même si ce n'est pas forcément l'association sénégalaise. Il y a pas mal d'associations en France, à Tours. Et donc, je pense qu'il faut intégrer ces associations pour aussi éviter de vivre seul. Voilà, parce que quand on arrive en France, quand on est isolé, ça risque d'être problématique, surtout quand on n'a pas l'habitude, quoi. Donc voilà, moi je les invite à rejoindre les associations.
Et du côté des Beaumont?
Oui, une nouvelle école qui va ouvrir en septembre 2026 à Tours, on a la chance, quoi, c'est-à-dire qu'on va accueillir l'école CREAD. L'école CREAD, c'est une école d'architecture intérieure et de design produit, mais surtout d'architecture intérieure. Qui n'est absolument pas cette activité représentée sur la région, sur le territoire. Donc on est content de pouvoir offrir aux Tourangeaux et Tourangelles justement l'opportunité de faire des études dans ce domaine. Voilà, donc c'est une école qui est sur un volume de 5 ans, sur 5 années, certifiée par l'État avec un diplôme donc, de niveau 7, donc qui correspond à un bac plus 5. Et voilà, pour apprendre toutes les ficelles de ces métiers-là. Alors c'est très diversifié, hein. C'est aussi bien pour des particuliers que pour des agrandissements, que pour des magasins, que pour des surfaces plus importantes. Voilà, ce sont des gens qui seront créatifs à la fois techniquement au point pour pouvoir régler. Ils connaisseront toutes les clauses qu'on appelle restrictions, on va dire, de sécurité, style ERP, pour la protection, la circulation, la signalétique, voilà, bon, c'est de beaux métiers en perspective qui arrivent dans la région.
Bah, trop bien, et ça sera donc dans les locaux de Brassard?
Alors, ouais, alors pour la première année, certainement la deuxième année, vu qu'on va profiter, bénéficier de ce nouveau bâtiment que l'on a pour l'école Brassard qui est au Deux-Lyons, 40 avenue du Pont-Cher. Et donc on aura une double identité qui sera visible dans ces locaux-là, puis on verra en fonction du développement de cette nouvelle école. Et c'est le but, hein, de toute façon, d'avoir l'opportunité de se délocaliser et d'aller ailleurs pour que cette école prenne son envol toute seule. Quoi.
Ok, et ça s'appelle Brassard aussi, c'est juste une filière ?
Non, l'école Brassard reste l'école Brassard. Cette école s'appelle CREAD, C-R-E-A-D. En fin de compte, l'école Brassard et l'école CREAD appartiennent à un groupe qui s'appelle justement EDH. Et EDH a déjà plusieurs entités. C'est un groupe français. Donc on a la chance de faire partie d'un groupe français. Et il y a l'école française du journalisme, il y a l'école ICA de tout ce qui est médiation culturelle, il y a l'école ESEC et tout ce qui la concerne l'audiovisuel, ainsi de suite. Il y a évidemment l'école mondialement connue qui s'appelle MOPA. MOPA qui est une école d'animation 3D, de cinéma d'animation qui est à Arles. Il y a Miami Art School, comme son nom l'indique, qui est à Miami, une école de design graphique. Il y a deux écoles aussi en Espagne de design graphique qui s'appellent Cézine à Santander et puis une autre à Pamplune qui s'appelle Cranevara. Et puis la petite dernière acquisition qui est relativement remarquable, c'est une des plus grandes écoles du monde qui s'appelle Nogmon, qui forme les plus grands artistes dans le domaine de l'animation 3D, qui est à Los Angeles, qui alimente des groupes tels que Sony, tels que Pixar, tels que Disney, aux États-Unis et ailleurs. Et donc on est fiers que ce soit un groupe français qui appartienne à toutes ces écoles. Quoi.
Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup d'endroits où il y a en fait cette... Comment ça s'appelle le groupe
EDH.
EDH, c'est ça.
EDH,
okay. Et donc c'est français.
Et c'est français, groupe français, EDH, voilà. Et donc l'idée c'est de créer des interactions avec toutes ces différentes écoles. Je ne parle même pas d'Erasmus, hein, je parle aussi des doubles diplômes, des choses. Il y a énormément de dynamique qui est créée au sein de ce groupe. Et comme on peut le constater, comme j'ai cité, ce sont que des écoles dans le domaine artistique. Voilà. Et c'est ce qui permet justement d'avoir ces passerelles et pour que nos étudiants soient confrontés à la réalité de ce qui se passe plus tard sur le marché.
D'accord. Et CREAD, du coup, c'est la première année et il y aura l'effectif, c'est un gros effectif d'élèves ou...
On fait bien, on y va doucement, c'est le but. Le but, c'est la qualité. Donc on a un effectif attendu de 30 étudiants seulement pour l'instant, de façon à ce qu'on se mette bien en place. Alors évidemment, on va pouvoir bénéficier du savoir-faire des écoles CREAD déjà en France. Il faut savoir que Brassard, à l'origine, c'est Tours, CREAD, c'est Lyon. La première école CREAD est faite à Lyon, c'est une école qui a quand même 50 ans. Donc on va bénéficier de l'expérience de ces écoles, notamment celle de Lyon, de 50 ans d'existence, pour pouvoir avoir un programme qui tient la route et que nos étudiants puissent exercer le métier qu'ils espèrent faire en venant dans cette école. Quoi. Voilà.
Ok, super. Donc c'est la deuxième école CREAD de France, non ?
C'est pas la deuxième, il y en a déjà 8.
D'accord.
Et voilà, donc on va être la 9e et une 10e qui ouvrira également à Nice en septembre 2026. Voilà.
Bah super, bah merci beaucoup en tout cas de m'avoir présenté ça.
Un vrai plaisir, merci à vous.
Mostefa Fliou, délégué général du CROUS Orléans-Tours.
Bonjour monsieur, alors vous êtes directeur général du CROUS depuis maintenant bientôt 2 ans. On a vu que. Vous avez fait carrière dans l'éducation. Qu'est-ce qui vous a poussé à ce choix ?
Alors, au-delà de la carrière professionnelle de tout fonctionnaire, rejoindre l'enseignement supérieur, c'était un métier que je n'avais pas exercé auparavant. Et donc, pour être honnête, je me suis engagé dans cette voie-là pour enrichir un parcours professionnel. Donc ça, c'est l'idée de base. Par contre, en arrivant au CROUS Orléans-Tours, c'est dès les premiers jours, je me suis dit que j'ai effectivement fait le bon choix, parce qu'en fait, c'est un domaine d'activité qui est vraiment passionnant. Être au service des étudiantes et des étudiants, surtout ceux qui ont le plus besoin pour réussir leur parcours dans l'enseignement supérieur, c'est une des plus nobles missions que j'ai pu accomplir sur toute une carrière.
Quels ont été vos projets qui se sont concrétisés ?
Alors, les projets qui se sont concrétisés, en fait, en 2 ans à l'échelle d'un établissement, c'est court. Cependant, ce qu'on peut dire collectivement, c'est ce que je peux dire, hein, c'est qu'il y a un collectif qui s'est mis en mouvement avec des projets qui commencent à l'échelle de l'académie, parce qu'il y a Tours, il y a Orléans, il y a Chartres, sur lesquels les déprojets pour les étudiantes et les étudiants sont soit sortent de terre, des résidences universitaires, des restaurants universitaires. Donc il y a énormément de projets qui commencent à voir le jour avec une ambition de mettre un établissement au mouvement pour qu'on rende le meilleur service aux étudiantes et aux étudiants.
Merci beaucoup. Pouvez-vous nous expliquer le rôle du CRUZ dans le soutien aux étudiants, notamment dans le domaine culturel et artistique?
Alors, c'est une très très bonne question parce que le CRUZ est souvent connu pour offrir aux étudiantes et aux étudiants le gîte et le couvert, c'est-à-dire l'hébergement et la restauration. Mais il y a une dimension qui n'est pas suffisamment connue du CRUZ, c'est à savoir la dynamique culturelle. Et vous avez la manifestation aujourd'hui, ce Happy Campus Day d'aujourd'hui. Et il faut dire que ce moment-là, il est à l'échelle de tout le territoire. Cet après-midi, en début d'après-midi, nous étions à Chartres pour un événement équivalent avec la taille d'une ville comme Chartres. Et il y en a autant dans d'autres villes, Orléans, Bourges, etc. Donc cette dimension culturelle, c'est des moments de rentrée pour créer de la cohésion, l'esprit de groupe, permettre la fédération et casser les barrières entre les jeunes étudiants sur un territoire donné, mais c'est aussi tout au long de l'année, il y a énormément de manifestations culturelles, soit à l'initiative du CRUZ, dans le cadre du projet du CRUZ, il y a des projets Culture Action, il y a l'aide à la création artistique, il y a énormément de manifestations en ce domaine-là, sur lesquelles on essaye de les ouvrir autant que faire se peut pour les jeunes. Soit directement en propre au CRUZ, ou en partenariat avec les universités, avec l'INSA, mais aussi avec la DRAC et avec d'autres opérateurs. Donc la dimension culturelle, c'est quelque chose qui, pour nous, en tant qu'établissement public, constitue ce supplément d'âme pour lequel on essaie de l'ouvrir aux étudiants et notamment à celles et ceux qui sont les plus éloignés de ces matières-là.
Quels sont vos objectifs pour les événements culturels de cette année ?
Les objectifs, c'est de 1, de permettre à chaque étudiante et étudiant de s'ouvrir à la fois à l'accès dans une dimension de démocratisation, l'accès à la culture, au lieu culturel, à celles et ceux qui ont des talents, de pouvoir exprimer leurs talents à travers les concours qui sont proposés dans toutes les matières, que ce soit dans le domaine de la musique, dans le domaine de la photo, dans le domaine de la BD. Il y a des concours régionaux et nationaux avec des récompenses à la clé. Et donc les projets, ce sont ceux-là qui s'offrent. Surtout, bien entendu, nous avons aussi le projet de réhabiliter sur la résidence de Grandmont, ce qu'on appelle le théâtre de Grandmont, qui est une salle qui se situe au pied d'une résidence universitaire. Elle est parmi les priorités des projets pour réhabiliter cette salle et la mettre à disposition des étudiantes et des étudiants. Ça, c'est à Tours, mais à Orléans, il y a aussi des actions qui sont équivalentes sur lesquelles j'ai eu l'occasion d'en parler à la radio Campus d'Orléans.
Est-ce que tu as d'autres questions pour notre invité ? Alors, je vais me tourner vers Napoléon, qui est notre étudiant international. Je te tends le micro. Est-ce que tu as des questions pour Monsieur Chiou ?
Monsieur le directeur général, il y a quelques instants, vous disiez que l'une des vocations du CRUZ est d'offrir le gîte aux étudiants. Là, je vais aborder la question des étudiants internationaux qui, très souvent, quand ils viennent ici à Tours, éprouvent d'énormes difficultés à trouver un logement. Est-ce que vous avez connaissance de ce problème-là et quelles sont les mesures que vous prenez pour y remédier ?
Alors, sur la question des logements, donc il n'y a pas que les étudiants internationaux qui sont confrontés à cette difficulté-là. En tout état de cause, il y a pour les étudiants qui arrivent dans le cadre de partenariats avec les universités, on travaille avec les universités pour qu'ils aient des hébergements, c'est-à-dire que l'étudiant qui est inscrit via Campus France avec une université, il a la garantie à travers la réservation des logements. Quand il arrive, il est logé. Pour les étudiants qu'on appelle les free movers, effectivement, ces étudiants-là, c'est en fonction des disponibilités qui restent, et ce ne sont pas que les étudiants internationaux qui éprouvent des difficultés, mais c'est aussi des étudiants nationaux, je ne veux pas opposer les uns aux autres, mais cette difficulté, elle est générale. Donc pour nous, pour ce qui nous concerne le CRUZ, on essaye d'offrir à travers les différents tours de logement, il y a 3 tours, et au fur et à mesure que les logements ne soient pas occupés, on les propose aux étudiants sans distinction de nationalité. Donc voilà, ça c'est typiquement sur, j'allais dire, le parc de logements disponible. Sur les projets futurs, bien entendu, on a des projets de réhabilitation des résidences parce qu'elles ne sont pas en ordre, elles sont des résidences vieillissantes, mais aussi il y a des projets nouveaux de construction de nouveaux logements, de nouvelles résidences. Nous travaillons sur un projet pour une résidence nouvelle sur le site des Deux Lions pour augmenter l'offre de logements étudiants pour ce qui nous concerne.
D'accord. Et en termes de projets culturels, qu'est-ce que vous réservez aux étudiants internationaux? Parce que on a constaté qu'ils sont très peu ici sur les différents stands. Est-ce que dans le volet culturel de vos actions, est-ce qu'il y a une part importante réservée aux étudiants internationaux?
Bah, complètement. Nous, la vocation du CROUS, c'est un opérateur public universel. Il ne fait pas de distinction entre les organismes de formation, universités, écoles privées, peu importe. On a une vocation universelle. Nos dispositifs sont ouverts à toutes les étudiantes et les étudiants, y compris les associations. Pour avoir une présence sur une manifestation comme aujourd'hui, c'est une journée d'intégration, les associations d'étudiants internationaux peuvent faire la demande pour être présents, par exemple, sur une journée comme aujourd'hui. Cela étant dit, dans le dispositif notamment de Culture Action, il y a des associations d'étudiants de toutes nationalités, principalement africaines, mais pas que, mais essentiellement africaines, qui présentent des dossiers pour accompagner des manifestations, des projets culturels ou des activités multiculturelles, et ils sont accompagnés avec des subventions du CROUS. Donc le CROUS, c'est un service public. C'est un service public fidèle, j'allais dire, aux valeurs de la République, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de distinction. Dès lors qu'on est étudiant inscrit, on peut prétendre et présenter des dossiers au même titre que tout autre étudiant, qu'on soit de nationalité française, européenne ou internationale.
D'accord, une dernière question. Vous parliez tantôt des dispositifs qui existent et qui sont à la disposition des étudiants internationaux. Est-ce que vous pouvez faire la lumière sur ces dispositifs-là, dispositifs dont peuvent bénéficier les étudiants qui viennent d'arriver à Tours?
Alors, les dispositifs qui viennent d'arriver, je pense que l'université avec qui on travaille, hein, surtout, ont le guichet, le helpdesk, qui peut vous mettre, ou qui peut mettre ces étudiants-là en relation avec le CROUS pour pouvoir présenter des dossiers dans le cadre des dispositifs existants. Il n'y a aucun souci.
D'accord.
Voilà. Donc, avec plaisir.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Bonjour, monsieur le directeur. Moi, j'avais une question à propos des repas pour le CROUS. Donc, on sait qu'il existe pour les étudiants les repas à 1 euro et des dérogations en plus pour les étudiants non boursiers pour avoir les repas à 1 euro. Est-ce que dans le futur, ce sera un objectif de mettre tous ces repas à 1 euro pour tout le monde, pour tous les étudiants?
Alors, comme vous le savez, la question du prix du repas, elle est fixée au plan national. Ce n'est pas le CROUS Orléans qui va décider le tarif du repas. En tout cas, là, pour le moment, il y a une proposition de loi qui est en débat au niveau national, et nous, on appliquera ce qui sera décidé au niveau national. Parce qu'en fait, la compensation, je ne sais pas si vous savez, mais c'est important de le dire, parce que quand on parle euro, tout le monde comprend. Combien coûte un repas, selon vous, à confectionner un repas?
Je ne sais pas, dites-moi.
Le coût moyen d'un repas, c'est entre 8 et 9 euros ce qu'on met dans l'assiette. Il est proposé aux étudiants boursiers à 1 euro, 3,30 pour les non-boursiers, et ceux qui sont en difficulté, après une évaluation par les assistants sociaux, ils accèdent au tarif au repas à 1 euro. La différence entre 1 euro et 9, les 8 euros, c'est l'État qui les met. Donc la décision de pouvoir les offrir tous les repas à 1 euro pour tout le monde, elle échappe complètement au CROUS parce qu'il n'a pas la capacité de le faire. C'est-à-dire, si on l'impose au CROUS sur les entours, l'équilibre budgétaire, s'il n'est pas compensé, on ne peut pas le faire. Et puis en plus, il y a un autre aspect, c'est que si vous mettez à 1 euro, les restaurants actuels ne pourront pas absorber la capacité des étudiantes et des étudiants qui afflueraient en vertu de ce niveau de repas. Donc la question l'idée, l'ambition, elle est, j'allais dire, idéale. Mais par contre, les conditions de sa mise en œuvre, il faut comprendre qu'elle suppose, je ne dis pas qu'elle est impossible, elle suppose un investissement immédiat, à moyen et long terme. Parce que si on fait le repas à 1 euro, avec les structures actuelles, on va rajouter de l'attention à l'attention. Par contre, il faut investir dans de nouveaux restaurants, etc. Et ça, c'est pas comme ça qu'on construit un restaurant. Voilà.
Très bien, merci beaucoup.
Je vous remercie de vos questions.
Alors moi, j'en ai une dernière, si vous voulez bien, peut-être Napoléon, si tu me dis si tu as d'autres questions. Je voudrais savoir, monsieur Fiou, il y a du bruit derrière, excusez-moi. Est-ce que vous pensez que le Crous est une chance à la française ?
Alors, je crois qu'à travers le monde, le modèle des Crous, il existe en Europe en tout cas, en Allemagne et en France. C'est-à-dire que cette chance-là, pour reprendre votre terme utilisé, je pense qu'elle n'est pas suffisamment connue et ça fait partie de la grandeur, j'allais dire, de la République. En ce sens où, typiquement, ce service, qui est un service universel, comme je le disais tout à l'heure, ce service universel, il est destiné justement à celles et ceux qui n'ont pas la chance, qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas les moyens de pouvoir poursuivre un parcours universitaire. Et sachez que, en tout cas, votre serviteur, je vous le dis en toute humilité, avec des collègues ailleurs, hein, dans d'autres régions, nous travaillons justement d'arrache-pied, on n'est pas les seuls, on est accompagné d'équipes, pour que justement cette chance de pouvoir poursuivre ses études dans le supérieur, elle soit atteignable par la majorité et surtout par celles et ceux qui n'en ont pas les moyens. Là, c'est l'ADN des Crous. C'est une chance, mais c'est pour ça, quand on se lève le matin et on se regarde dans la glace, on est fier de servir cette cause.
Ça veut dire que votre parcours est peut-être plutôt orienté vers la justice sociale. Si ce n'était pas vers l'éducation et la jeunesse, est-ce que c'est plutôt la justice sociale ?
Alors, j'allais dire les deux, mon capitaine. Hein, pardonnez-moi, c'est une réponse peut-être un petit peu galvaudée, mais les deux, mon capitaine, parce que sans justice sociale, je pense qu'honnêtement, on se trompe de réussite, parce que la réussite, elle a deux sens, que c'est la réussite, elle est collective. Si elle n'est pas globale dans tous les domaines, ben, la réussite, elle peut être individuelle. Mais elle sera individuelle. Si on veut avoir le sens de la réussite globale, il faut qu'elle soit partagée. Il faut que la justice sociale serve la réussite d'une société dans son ensemble. En tout cas, c'est ma perception.
Une dernière question, on ne va pas abuser quand même de votre temps. Alors, l'année dernière, je crois, il y a un an, au micro de nos camarades d'Orléans, vous disiez avoir pour mission de réveiller la belle endormie qu'est le Crous. Alors, est-ce qu'il y a encore des zones endormies au Crous Orléans-Tours ?
Alors, sans doute que oui, parce que typiquement, si on ne répond pas à l'offre de logement, à la demande de logement, si on a des queues d'attente devant les rues, on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est un travail que nous devons mettre en place avec les partenaires, parce que nous, tout seuls, on peut rien faire, on peut faire des choses, mais elles ne seront visibles, elles ne seront concrètes que si on a des partenaires qu'on arrive à entraîner. Et tout à l'heure, on était avec le représentant de la région, on était avec le représentant de l'université, de la métropole, pour essayer d'avoir cette capacité d'entraînement pour pouvoir ramener tout le monde à réussir, à réveiller la belle endormie. La belle endormie, c'est pas d'un claquement de doigts. Je ne suis pas quelqu'un... moi, je suis un mortel parmi les mortels. Je suis honoré d'être à la tête d'équipes mobilisées qui s'investissent. Aujourd'hui, vous en avez eu la manifestation, parce qu'il n'y aurait pas eu cet événement-là s'il n'y avait pas des agents du Crous qui ont bossé depuis un certain nombre de mois pour pouvoir organiser ce moment festif. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, typiquement, il y a des choses qui se réveillent. Il y a des d'autres qui commencent à éclore, mais il y a d'autres qui ont fleuri. Et donc on essaye de faire un printemps pour ce Crous-là, le moment venu, mais ce sera un printemps radieux. Vous pouvez compter sur l'engagement en tout cas, les étudiants peuvent compter sur l'engagement de chacune et de chacun pour que ce soit vraiment des conditions les plus épanouissantes et les conditions de réussite des étudiantes et des étudiants.
À nous les lendemains qui chantent.
C'est l'occasion, quelle belle transition, merci de votre invitation.
Merci à vous et merci à tous.
Merci beaucoup.
fin de cet épisode. Retrouvez toute la série de podcasts consacrés à la rentrée universitaire sur notre site radiocampustour.com. Cette série vous est proposée par Radio Campus Tours. Un grand merci à Camille, Elio, Guillaume, Louise, Lola, Marie, Mélissa, Napoléon et Sébastien.